Bonsoir à tous, bienvenue à l'espace Mendès France. Je suis ravie de voir que la salle est pleine, donc vu le thème, remarquez, je m'attendais un petit peu. Donc aujourd'hui, dans le cadre de l'exposition « T'as l'air dans ton assiette », donc je vous invite bien sûr à découvrir jusqu'au mois de février 2018. Nous avons invité pour la première conférence donc associée à la thématique alimentation le docteur Xavier Piguel, qui travaille donc au CHU de Poitiers et qui est responsable du centre spécialisé de l'obésité. Voilà, je vais vous laisser tout de suite la parole, et puis après, on attend bien sûr vos nombreuses questions.
Merci. Bonsoir, merci pour l'invitation, et je suis heureux de voir qu'il y a autant de monde, mais je suis un peu impressionné, je reconnais en plus certaines anciennes collègues, donc ça me fait plaisir. Donc effectivement, je suis médecin hospitalier au CHU de Poitiers, endocrinologue, diabétologue, nutritionniste, et pour la partie nutrition, donc je coordonne le centre spécialisé d'obésité et je suis amené à voir en consultation quasi de façon quotidienne des personnes qui viennent pour un problème d'obésité. Mais là aujourd'hui, on m'a demandé de vous parler de l'alimentation et comment l'alimentation peut nous aider à mieux vivre. Donc dans l'heure qui nous est impartie, on va essayer de voir un petit peu comment est-ce qu'avec l'alimentation on peut peut-être vivre plus sainement, en faisant un petit peu le point sur peut-être des idées parfois un peu préconçues et parfois fausses que l'on peut avoir en matière nutritionnelle, décrire un petit peu les grandes bases de l'alimentation, et puis ensuite essayer de passer les uns après les autres, en tout cas certains des régimes que l'on peut voir actuellement, certains qui sont sanitairement prouvés et d'autres beaucoup moins. Alors bien évidemment, on ne pourra pas tous les brosser, et après je serai à vos dispositions pour répondre à vos questions si... vous voulez avoir des informations plus précises sur certains régimes en particulier ou d'autres questions qui toucheraient l'alimentation. Alors quand on parle de manger pour vivre, eh bien on ne peut pas s'empêcher de penser à cette citation tirée de Molière, il faut manger pour vivre et non vivre pour manger. Et déjà on peut catégoriser souvent deux sous-types dans la population différents, ceux effectivement qui peuvent vivre pour manger ou ceux qui mangent pour vivre. Et on peut s'apercevoir que dans les expressions françaises, eh bien, il y a tout un tas d'expressions qui tournent autour de l'alimentation et qui montrent que vraiment l'alimentation elle est ancrée au plus profond de notre civilisation. Il y a, je vais vous en lister quelques-unes, manger son pain noir quand on traverse une période difficile, il y a avoir mangé du lion quand on déborde d'énergie, manger de la vache enragée quand on a vécu une période délicate dans sa vie. Bon là, il ne reste plus grand-chose à vivre quand on mange les pissenlits par la racine. Il y a mangé à tous les râteliers, et bon, cette période préélectorale, c'est vrai qu'on est souvent confronté à ce type de situation. Mais vraiment, manger est un acte de civilisation. Et peut-être que certains d'entre vous ont pu voir, je crois que c'était la semaine dernière, un film documentaire sur le premier homme, et qui était très intéressant en termes d'anthropologie. Et on voit très bien dans ce film, qui montre l'évolution humaine, que l'acte alimentaire est vraiment un acte fondateur. Donc le repas a une place extrêmement importante dans notre vie. On évalue à plus de 50 000 le nombre de repas passés dans une vie. Et donc c'est une vraie nécessité de survie. Mais on a très rapidement constaté que de manger créait du lien social. Et on a assez rapidement également associé nourriture terrestre et nourriture de l'esprit. Alors, il s'est évoqué tout à l'heure, lors de l'ouverture d'Actualité Nouvelle-Aquitaine, que certains actes de la vie familiale, sociale, religieuse étaient associés à l'alimentation, les mariages, les baptêmes, les communions, mais aussi les bar mitzvah et autres aïd el-kabir, peuvent être associés effectivement à un temps heureux ou pas d'ailleurs, mais autour de l'alimentation. Manger revêt parfois un sacrement religieux, c'est le cas dans le christianisme, où on mange son Dieu, parfois on le boit, prenez, mangez-en tout, ceci est mon corps livré pour vous. Ça peut être effectivement un instrument commercial, puisque des contrats se signent autour d'un repas d'affaires. Ça peut être aussi un instrument politique, quand on fait la grève de la faim, pour montrer son opposition à un acte politique. Et puis, alors nous, en tant que soignants, on peut être amené à traiter ou essayer de prendre en charge des personnes qui ont des pathologies du manger. Donc l'anorexie mentale, quand on ne mange pas assez, parce qu'on a comme cette jeune fille dans le miroir qui se voit beaucoup plus grosse qu'elle ne l'est, ce que les psychiatres appellent la dysmorphophobie, on ne se reconnaît pas dans son enveloppe corporelle. Et puis la boulimie, où pour combler un vide, on va manger par excès, et sans du tout ressentir de rassasiement. Et aujourd'hui, si jamais vous allez sur Internet, vous tapez manger, alimentation saine, eh bien, vous avez toute une flopée de sites Internet, j'allais dire, qui vous vendent du rêve, enfin, qui vous vendent vraiment, parce qu'il faut souvent en payer un petit peu, et ils vont vous montrer tel instrument ou tel régime qui va vous permettre de vivre mieux, plus sainement, et surtout allégé de quelques euros. Et puis l'autre pendant de cette démonstration, c'est vivre. Et quand on fait un peu d'étymologie, d'étude de la racine des mots, on se rend compte que vivre vient du latin vivere, qui a donc donné aussi les vivres, c'est-à-dire la nourriture. Alors c'est vraiment la quadrature du cercle, hein, c'est vraiment manger et vivre, c'est d'un seul tenant. Et quand on regarde les définitions dans le Robert ou le Larousse, vivre c'est se développer, respirer, grandir pour un organisme biologique. La deuxième définition, c'est aussi connaître une vie spirituelle ou mystique en religion. Donc là encore, on retourne sur une signification presque religieuse. Et puis, c'est aussi se nourrir et s'alimenter. On peut être amené aussi à mieux manger pour mieux vivre parce qu'on a une pathologie qui peut être liée à un problème d'ordre nutritionnel. Et en corrigeant cet aspect nutritionnel, eh bien, c'est un vrai traitement que de prendre en charge cette maladie. Alors, je suis diabétologue, donc forcément on est amené régulièrement à voir des patients qui ont du diabète et on les aidera pour avoir une alimentation, on va équilibrer les apports glucidiques. On peut avoir un régime sans sel quand on est hyper tendu ou insuffisant cardiaque. Alors ça se complique un petit peu quand on est insuffisant cardiaque et diabétique, hein, parce que du coup l'alimentation se réduit. On peut avoir un régime sans gluten. Alors dans le cas très particulier d'une maladie assez rare qu'est la maladie cœliaque, alors on verra que on parle beaucoup du régime sans gluten indépendamment de cette maladie si particulière où on n'absorbe pas, mal en tout cas, tout ce qui va être contenu dans les farines d'avoine, seigle, blé ou orge. On peut avoir un régime sans purine, c'est-à-dire sans abat quand on fait de la goutte. Et puis, on peut avoir un régime sans graisse quand on fait de l'hypercholestérolémie. Et pour reprendre le premier cas tout à l'heure, c'est bien fréquent qu'on ait affaire à un patient qui est insuffisant cardiaque, qui a fait un infarctus, donc qui est aussi diabétique, hypertendu, et hypercholestérolémique, et là on se rend compte que ça devient impossible de manger sans sucre, sans sel, sans graisse, le tout en faisant, comme le médecin vous l'a proposé, 3 quarts d'heure de sport 3 fois par semaine. Et puis, j'ai pris une image un peu extrême, on peut aussi vouloir mieux manger pour perdre du poids parce qu'on est obèse, alors là c'est recherché dans le cadre des sous-motories, mais voilà, moi, c'est mon biais de recrutement, c'est de voir des personnes qui veulent perdre du poids. Et souvent, il y a une telle pression médiatique sur le poids et l'image corporelle qu'on va faire association et accumuler perte de poids pour mieux vivre et mieux manger pour mieux vivre. Or, on va voir que manger plus sainement, ça ne veut pas forcément dire avoir une alimentation qui va vous aider à perdre du poids. Et souvent, il y a une grosse confusion qui est faite à ce niveau-là. Alors justement, puisqu'on aborde très rapidement l'obésité, vous savez que c'est défini par l'indice de masse corporelle, quel ratio de votre poids sur votre taille élevé au carré. C'est une définition qui est applicable chez les sujets de 18 à 65 ans. Ce n'est pas applicable chez le mineur, enfin pas le mineur, mais chez l'enfant en tous les cas, qui est en pleine croissance et qui du coup a une évolution de sa taille et du poids qui fait qu'il n'y a pas des normes fixes. Hein. Là, c'est le pédiatre ou le médecin traitant avec sa courbe dans le carnet de santé. Et puis, ce n'est pas applicable non plus au-delà de 65 ans, parce que plus on avance en âge, et moins les problématiques pondérales sont importantes pour l'aspect excès de masse grasse délétère pour la santé, mais on est plutôt à s'inquiéter du risque de dénutrition quand on augmente en âge. Donc, on ne va pas garder les mêmes catégories de définition de l'obésité. Et on aura un poids normal quand on est entre 18,5 et 25, l'indice de masse corporelle. Ceci dit, ça c'est un outil qu'utilise votre médecin, votre infirmier, votre diététicien, mais c'est mieux que rien, mais ce n'est pas forcément la panacée, puisque quand on est double champion olympique comme Teddy Riner, l'an passé, 131 kg, 2,01, donc ça fait un beau bébé, avec un indice de masse corporelle à 32,4. Et donc si on regarde mon petit tableau de médecin assureur, là, et ben 32,4, ça me le place en obésité de grade 1. Donc monsieur Riner, vous êtes obèse. Je me garderai bien de lui dire en face en tous les cas, parce qu'il n'est bien sûr pas obèse. Vous imaginez qu'il est extrêmement musculeux et que, en plus, la masse musculaire est plus lourde que la masse grasse et qu'il n'est pas obèse. Donc, on utilise d'autres éléments, notamment le centimètre de couturière pour mesurer le périmètre abdominal. Et lui, il n'a pas d'obésité au niveau du ventre, donc il est bien sûr pas obèse. Ceci dit, dans 10-15 ans, quand il fera un peu moins de judo, qu'il sera peut-être ministre de la Santé, ou du sport en tous les cas, peut-être que là, il serait devenu obèse. Enfin, ce n'est pas la question. Et puis, mieux manger pour mieux vivre, eh bien parce qu'on est sans cesse abreuvé de droite et de gauche pour dire qu'il faut manger de telle ou telle façon. Et donc, je vous ai mis des photos un peu iconoclastes, on les reverra. Bon, José Bové, c'est pour l'agriculture biologique. On verra si c'est vraiment plus sain. Là, je vous ai mis l'ancien numéro 1 mondial, Djokovic, qui est devenu numéro 1 depuis qu'il a mangé sans gluten, sans avoir de maladie cœliaque. Et donc, depuis, on a plein de rayons dans les supermarchés qui vendent des produits sans gluten. La Brigitte Bardot, c'est pour tout ce qui va concerner le végétarisme. Et puis, je vous ai mis quand même deux politiques. Alors, on est en période encore préélectorale, mais les plus jeunes ne savent peut-être pas, et on a peut-être oublié qu'en 1995, le slogan, c'était « manger des pommes ». Alors, je ne sais pas si aujourd'hui, on trouverait ça très crédible d'avoir un candidat qui propose de manger des pommes. Et puis, parce qu'il y avait aussi, alors c'était il y a un an ou deux, Ségolène Royal qui avait un petit peu stigmatisé à l'époque le Nutella et ce type de produit qu'il fallait surfacturer parce qu'il était délétère pour la santé. Et on va voir si c'est vraiment une politique de santé nécessaire. Alors, on a parfois quelques idées reçues et je vais vous demander de participer parce que moi je me sens un petit peu seul sur mon banc. Et je vais vous demander si pour maigrir, j'ai déjà un petit peu dit la réponse, est-ce que selon vous il faut manger équilibré ? Alors ceux qui pensent oui, allez, faut se jeter à l'eau, lève la main. Alors c'est quoi équilibré ? C'est une information intéressante. C'est une bonne base, exactement. Donc c'est les messages on le verra tout à l'heure, du PNNS, hein, du Plan National Nutrition Santé. C'est les petits messages que vous pouvez voir aussi sur les bandeaux publicitaires. C'est manger équilibré, pas trop sucré, pas trop salé, pas trop devant la télé, 50% de glucides, 15% de protéines, etc. Les 3 repas par jour. Donc il y avait une majorité de oui. Eh bien, ça n'a jamais été démontré que de manger équilibré faisait perdre du poids. Encore une fois, ça vous permet de vivre mieux sur le plan sanitaire, peut-être de faire moins d'hypertension, moins de cholestérol, moins de diabète, mais ça n'a jamais fait maigrir personne. Pour maigrir, il faut ne pas sauter le petit déjeuner. Très important. Alors, qui dit oui ? Chez moi, on disait « chat échaudé craint l'eau froide ». Ben c'est faux. Il n'y a aucune étude scientifiquement prouvée qui démontre que de prendre un petit déjeuner fait perdre du poids. Souvent, c'est un message que l'on entend parce que les gens ont parfois une alimentation déstructurée, ils n'ont pas le temps de manger, ils vont faire un gros repas riche le soir. Du coup, comme ils ont eu faim toute la journée qu'ils n'ont pas mangé, ils peuvent se venger sur l'alimentation. Et l'idée, c'est de réintroduire une rythmicité des repas. Mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas faim le matin, voire qui sont nauséeux. Et quand leur diététicien, leur médecin leur dit « prenez un petit déjeuner », alors ils sont bien obéissants, ils prennent leur petit déjeuner, ils rajoutent 300 calories le matin, pour autant ils mangeront pas moins le midi et le soir, et non seulement ils ne perdront pas de poids, voire ils peuvent en prendre. Pour maigrir, il faut faire 3 repas par jour. C'est un petit peu le pendant de l'autre, hein. C'est un petit peu le même principe, là c'est pareil. Ça n'est pas effectivement avéré que, en passant de 1 à 3 repas, on perd du poids. Mais encore une fois, c'est la question, c'est pour maigrir, hein, c'est pas pour être en meilleure santé. Alors, pour maigrir, il faut manger léger le soir. Alors, léger le soir, qu'est-ce que c'est ? Alors, qui dit faux pour voir les mains ? Pas beaucoup. Et vrai, alors, c'est tout le monde ? Eh ben non. Alors peut-être vous allez mieux dormir si vous mangez léger, ça c'est possible. Ça c'est encore autre chose. Et puis si on dort mieux, peut-être que on mangera moins la nuit, pour ceux qui ont des troubles du comportement alimentaire, et qu'on perdra du poids. Mais là aussi, il n'y a pas d'études qui le montrent. C'est peut-être vrai, mais c'est peut-être faux. Et c'est pour vous dire que c'est extrêmement compliqué en matière de nutrition d'avoir des données qui sont bien validées. On vous prescrit un médicament du cholestérol, qui va vous faire moins avoir d'infarctus. Bon, ça finit encore un autre débat. Mais il y a plein d'études pour les médicaments qui vous disent quand on prend tel médicament, on a moins de telle chose-ci, quand on n'en prend pas, on a plus de telle chose. Pour l'aspect nutritionnel, il y a beaucoup moins de données parce que les études sont compliquées à mettre en place, que ça coûte cher alors qu'on n'a pas de médicaments à vendre, donc il n'y a pas d'industrie qui le finance. Et on est beaucoup dans des croyances dogmatiques ou des querelles de chapelle, si vous voulez. Donc c'est difficile du coup pour vous, pour nous, de s'y retrouver. Pour maigrir, il faut manger des légumes à volonté. vous auriez dit vrai. Bah oui, moi en plus j'aurais dit vrai en plus. Ben non. Alors d'où que ça vient ça? C'est vrai que les légumes verts, ce sont des fibres alimentaires et les fibres alimentaires ne sont pas digérables. Donc en fait, ça prend du volume dans l'estomac, c'est satiétogène, c'est-à-dire que ça coupe l'appétit. Et comme ça coupe l'appétit, on va se dire qu'on va moins manger, peut-être. Alors ceci, on peut aussi être mauvais coucheur et vous dire si vous mettez du beurre blanc sur vos haricots verts, ça va pas vous faire perdre du poids. Mais donc le message de manger des légumes à volonté pour avoir moins faim est vrai, c'est physiologique, mais pour autant, il n'y a pas une seule étude qui a montré que ça faisait perdre du poids. Ça n'empêche pas que vous puissiez en prendre, si vous le voulez, pour avoir moins faim. Il faut supprimer certains aliments qui font grossir quand on veut perdre du poids. Alors, faux, parce qu'il n'y a pas d'aliments qui fait grossir. Enfin, ils font tous grossir. Il n'y a pas de mauvais aliments et il n'y a pas de bons aliments. Et là, j'ai entendu la bonne parole, c'est la quantité. Exactement. Pour maigrir, il faut ne pas manger en dehors des 3 repas principaux. Faux. Exactement, vous pouvez fractionner votre alimentation en faisant des collations interprandiales, c'est le mot des médecins. C'est-à-dire que vous prenez votre dessert en décalé, par exemple, parce que vous n'avez plus faim à la fin du repas. Donc là, vous respectez vos sensations alimentaires et pour autant, vous n'allez pas prendre du poids. Pour maigrir, il faut manger lentement. Ça, c'est vrai. Voilà. Et c'est en fait la seule chose qui est véritablement avérée. Ça, c'est vrai. Il faut une 20aine de minutes pour que l'estomac, sous l'effet de la distension du fait du bol alimentaire, envoie certaines hormones comme la gréline qui va au niveau du cerveau vous dire « stop, tu es rassasié ». Donc plus on prend son temps pour manger et moins finalement on va manger en quantité parce qu'on va s'arrêter avant, parce qu'on est ballonné. Et comme on mangera moins, et bien là, pour le coup, on pourra perdre du poids. Donc ça, c'est extrêmement vrai. Alors si vous buvez, effectivement, ça remplit l'estomac, mais pas longtemps. Donc là, il y aura un effet de chasse. Et madame, vous disiez... Et alors l'assiette plus petite, là, c'est très important sur l'aspect visuel, parce que vous aurez l'impression d'avoir une assiette plus pleine. Alors, j'ai... À ma gauche, un verre de jus de pomme bio du Poitou-Charentes et à ma droite, un verre de Coca-Cola. Alors, quantité équivalente. Qu'est-ce qui est le plus calorique? Identique. Coca. Enfin, qui dit le Coca? Ouais. Qui dit le jus de pomme? Un quexin quand même. Mais c'est du bio, hein? Alors, dans 100 ml de jus de pomme, bio ou pas d'ailleurs, vous avez 45 calories. Et dans 100 ml de Coca-Cola, vous avez 42 calories. Donc uniquement sur l'aspect calorique, bon, on va dire que c'est pareil, hein, 42, 45, voire c'est... Donc c'est pareil. Donc parfois les gens aussi, ça c'est du vécu de consultation, disent, ah bah, j'ai arrêté le Coca, l'Orangina, maintenant je me suis mis au jus de pomme. Et je vous assure que dans la conscience des gens, manger bio, en plus c'est mieux pour la santé, ce qui est peut-être vrai. Mais en tout cas, en termes purement caloriques, c'est pas mieux. Sauf qu'on reçoit beaucoup les messages de dire les sodas, c'est pas bon pour la santé, attention aux calories. Ceci dit, en termes caloriques, le jus de pomme, ça va être pareil. Par contre, au-delà des calories, vous aurez, c'est vrai du côté du jus de pomme, des vitamines. Et donc, on parlera pas de calories vides comme le Coca-Cola, où bah là, alors si vous aurez un peu de potassium, mais sinon, vous n'aurez pas de vitamines, quoi. Mais en termes caloriques, c'est pas mieux. Et là, pour une portion équivalente de Nutella ou de beurre, qu'est-ce qui est le plus calorique? Alors, le beurre. Quelques partisans du beurre. Et le Nutella? Il y a beaucoup qui ne se prononcent pas. Hein. Tout le monde a les pétoles. Alors, c'était le Nutella, hein, je vous rappelle, qui était stigmatisé hein, par le gouvernement. Alors, vous me direz, 100 grammes, il faut les prendre. Mais c'était plus facile pour les chiffres. Le Nutella, c'est du sucre et du gras. Le beurre, ça n'est que du gras. Et le gras est plus calorique que le sucre. Donc, à quantité égale, le beurre est beaucoup plus calorique que le Nutella. Et parce qu'il y a moins de lipides dans le Nutella que dans le beurre. Alors après, on peut aussi discuter sur la qualité des matières grasses, où dans le Nutella, vous allez avoir de l'huile de palme, des acides gras trans et d'autres choses. Je ne rentre pas dans le détail. Hein. Mais sur l'aspect, encore une fois, calorique, c'est plutôt mieux le beurre. Et je vous assure que venant d'une région qui s'appelle la Bretagne, on peut manger des grosses quantités de beurre. Hein, qui, 100 grammes, ça ne fait pas peur à certains. Alors, l'idée, c'est qu'on puisse passer en revue les bases de la nutrition, hein, sans faire de vous des diététiciens hors pair, mais quand même avoir quelques bases pour pouvoir ensuite mieux savoir se repérer dans l'étiquetage alimentaire. Donc, c'est ce qu'on voit maintenant un petit peu partout, c'est des zones obligatoires. Que sont les besoins nutritionnels ? Eh ben, c'est la définition que donnent les instances de santé, c'est la quantité moyenne de nutriments qui vont être nécessaires quotidiennement pour le développement de l'organisme, donc ça c'est surtout pour les jeunes, pour le renouvellement des tissus, plutôt pour nous, et le maintien d'un bon état de santé physique et psychique. Alors là, c'est un petit peu compliqué, parce que comment est-ce qu'on définit une bonne santé ? Eh bien, c'est ça la définition, vous connaissez ce centenaire cycliste, et vivre longtemps, sans maladie, avec un épanouissement maximum de ses capacités. Ça vous va à peu près, pour être en bonne santé ? Et donc, comment est-ce qu'on va étudier ça ? Eh bien, on va faire des groupes témoins, on va étudier des groupes des hommes, des femmes, avec différentes tranches d'âge qui sont en bonne santé, et on va les mettre dans des pièces fermées, un petit peu comme ici, on va étudier ce qu'ils mangent, et tout ce qui sort, c'est-à-dire les échanges gazeux, quand on respire, les urines, les selles, et on va les soumettre à différents régimes alimentaires et voir s'ils développent ou pas des soucis. Et donc, le besoin minimum, ça va être défini comme la quantité minimale en dessous de laquelle la plus grande partie de la population, parce qu'on est tous un petit peu différents, présente des troubles, des carences ou un développement inférieur par rapport à des sujets nourris. Et là, ça vous paraît peut-être un peu barbare, mais c'est important de le savoir parce que c'est là-dessus après que par toutes les données nutritionnelles que vous verrez sur vos étiquetages. Et après, on va voir qu'il y a trois normes. Vous verrez les ANC, ce qu'on appelle les apports nutritionnels conseillés. Ça, c'est la bible de l'Agence française de l'alimentation, l'AFSTAPS. Et donc, ça représente les apports qui vont couvrir la plus grande partie de la population, 97,5%. Et on va avoir des besoins qui vont être définis pour l'homme, pour la femme, à différentes tranches d'âge, en fonction également de l'activité. Et là, c'est juste à titre d'exemple, hein, c'est pour vous montrer que c'est un vrai fourbi. Là, c'est juste pour les vitamines. Et là, on vous montre du nourrisson aux différentes tranches d'âge, chez l'homme adulte, chez la femme adulte, la femme allaitante, la femme enceinte. Et donc, vous avez tout un tas de normes qui sont établies. Ça, c'est pour les vitamines, mais il y a la même chose pour les minéraux et il y a la même chose pour les macronutriments. Et donc ça, c'est très précis parce que qu'on soit, vous voyez, un enfant de 7 ans ou un homme adulte, eh ben, on ne va pas avoir les mêmes besoins, ce qui vous paraît à peu près évident. Il y a une autre donnée qu'on appelle les AJR, ce sont les apports journaliers recommandés, et c'est ça qui est utilisé pour l'étiquetage des produits alimentaires. Et c'est là que vous verrez sur votre paquet de gâteaux, sur votre soupe, combien de vitamines et minéraux ça vous apporte. Ils vous le donnent en général pour une portion et pour 100 grammes généralement. Et ça, c'est une donnée réglementaire. Mais c'est différent des ANC. Parce que vous imaginez bien que vous n'allez pas avoir une bible à détacher de votre paquet de gâteaux. Donc, ils ont pris une seule référence qui est la femme d'âge moyen. En gros, c'est la ménagère de moins de 50 ans, la cible du marketing alimentaire. Donc, on va prendre par exemple celle-ci, c'est la femme adulte. Donc, il y a une ligne qui est concernée, qui va être mise sur l'étiquetage, alors que c'est toute la population qui est concernée. Ce qui fait que, comme vous avez été voir pour certains un diététicien, un nutritionniste, votre médecin traitant, ou même par curiosité, on se dit, tiens, je vais me fier à ce qui est contenu dans ce paquet, et ce n'est pas forcément approprié à vous qui n'êtes pas forcément une femme de 40 ans. Et vous avez une dernière notion qui sont les RNJ, les repères nutritionnels journaliers, où là, ça n'est pas obligatoire. Et donc là, on n'est plus dans les vitamines et minéraux, mais ça vous met les calories et la portion de glucides, lipides, protéines. Donc, ça n'est pas obligatoire, mais c'est presque devenu indispensable, puisque l'industrie, à partir du moment où il y a un industriel qui s'est mis à le mettre, que c'est plus, entre guillemets, vendeur de faire de l'affichage, tout le monde maintenant le fait. Et donc là, ça vous dit la proportion en calories, en glucides, lipides, protéines. Et voilà, typiquement, donc là, pour une marque de biscuits, on vous met la portion pour 100 grammes, pour un biscuit et ce que ça représente en pourcentage dans les repères nutritionnels journaliers. Et ça pourrait vous dire que, oh là, j'ai mangé 4% de ma ration, donc je peux encore manger l'équivalent. Si vous allez au McDo ou dans les autres fast-foods, vous avez également la même chose maintenant. Hein. Sauf qu'encore une fois, attention, ça concerne cette donnée-là, la femme, on va dire, de 40 ans, active. Alors, tout ceci aussi est à prendre avec précaution, parce qu'on a évalué les besoins en fonction du sexe, en fonction de l'âge, mais vous imaginez bien que entre un ouvrier couvreur et puis un enseignant, par exemple, qui aura peut-être moins d'activité physique, eh bien, les besoins ne sont pas les mêmes. Donc, il faut encore une fois prendre un peu de distance par rapport à ça. Et donc, l'équilibre alimentaire, tel qu'on nous le propose, eh bien, c'est comme ceci. Dans une ration alimentaire qui correspond à 2200 kcal par jour, on va avoir un peu plus de la moitié qui concerne les glucides, on va voir, dont moins de 10% doit représenter les sucres rapides, 35 à 40% de lipides, oui c'est important les lipides, hein, et 10 à 15% de protéines. Et alors depuis le début je vous parle de nutriments, mais qu'est-ce que c'est ? Un nutriment c'est une substance chimique qui va vous permettre d'assurer le renouvellement de vos constituants, donc les tissus, les organes, et puis de couvrir les besoins en énergie. Et donc on va distinguer les macronutriments, c'est-à-dire les glucides, les lipides, les protéines, et les micronutriments, on le verra, les vitamines et minéraux. Donc très rapidement, les glucides, juste pour vous rappeler, eh bien, c'est tout ce qui va se trouver dans le sucre raffiné, dans les fruits et dans les féculents au sens large. Et là, je voulais vous apporter une notion qui est celle de l'édulcorant, parce qu'on parle de mieux manger pour mieux vivre, hein, je vous assure, on va y revenir bientôt. Eh bien, notamment, on parlait de « je suis diabétique et je mange mieux », donc je mange, entre guillemets, un régime diabétique sans sucre, on peut être amené à proposer des édulcorants. Les édulcorants, ce sont des substances, souvent artificielles, qui ont pour but de donner le goût du sucre sans avoir les calories du sucre, ni l'impact du sucre sur la montée de la glycémie. Vous savez, le diabète, c'est quand on a trop de sucre dans le sang, et donc on va limiter les aliments qui font monter le taux de sucre dans le sang. Donc on va prendre des aliments qui ne vont pas être absorbés. Et donc, le sucre que vous utilisez à table, il s'appelle le saccharose, et on va utiliser actuellement deux grands types d'édulcorants, l'aspartame, en gros c'est le candérel hein, que vous connaissez peut-être, c'est tout petit, c'est un pouvoir extrêmement sucrant, mais ça n'apporte pas de calories, et ça ne fera quasiment pas monter la glycémie. Mais ça, c'est un produit de synthèse. Et puis, vous avez la stevia, dont on parle aussi beaucoup, qu'on trouve dans le grand commerce, qui est tirée du chanvre d'eau, qui est entre guillemets un peu plus naturelle, qui là aussi a un goût très sucré, qui a un petit arrière-goût aussi de réglisse, hein, que certains n'aiment pas trop, mais qui là, pareil, donnera le goût du sucre, mais il ne sera pas absorbé en tant que tel, et donc ça ne fera pas monter la glycémie, ça ne donnera pas de calories. Et puisqu'on parle du diabète et qu'on parle de mieux manger pour mieux vivre, je voulais juste montrer cet exemple d'une très très grosse étude, alors américaine, les études sont soit américaines, soit scandinaves, c'est eux qui ont les études les mieux ficelées, qui a voulu mettre en évidence ce qui permettait d'éviter de devenir diabétique. Parce que de la même façon qu'il y a une épidémie d'obésité dans le monde, eh bien, il y a une épidémie de diabète également dans le monde. Pardon. Et donc, cette étude qui a été menée sur plusieurs années a montré que si on avait un mode de vie plus sain, eh bien 90% des personnes qui étaient devenues diabétiques ne le seraient pas devenues finalement. Et ce qui sortait comme élément favorable pour ne pas devenir diabétique, eh bien c'était de faire une activité physique quotidienne d'une trentaine de minutes, des choses qui vous vont paraître aujourd'hui normales, mais il y a 20 ans ça ne l'était pas forcément, être non-fumeur, parce qu'être fumeur, ça augmente le risque diabétique, avoir une faible consommation d'acides gras trans et d'aliments à charge glycémique élevée. En gros, les acides gras trans, c'est tout ce qui est contenu dans les viennoiseries qu'on peut acheter dans les grandes surfaces et les aliments qui sont très sucrés, on va dire. Avoir une consommation élevée de fibres, donc là, on revient aux légumes qui ne font peut-être pas perdre de poids quand on les mange à volonté, mais qui vous évitent de devenir diabétique. Et puis, faire attention à son poids. Et dans un genre un petit peu différent, il y a une étude qui, pour le coup, est française, qui est basée sur le registre de la MGEN, hein, donc c'est le registre d'assurance maladie pour les enseignants, et qui avait montré que, contrairement à une idée reçue qu'on peut avoir, la consommation de café, 3 tasses par jour, était associée à une diminution du risque de développer un diabète de type 2, y compris quand on buvait du décaféiné. Donc là, on dit, tiens, c'est pas juste la caféine. Alors, qu'est-ce qui pouvait permettre dans le café de devenir moins diabétique? Eh bien, c'est que dans le café, comme dans le vin rouge de Bordeaux, eh bien, il y a des polyphénols, que ça va diminuer l'absorption du fer. Or, le fer, il s'accumule où? Dans le foie. Et quand on est diabétique, eh bien, on a une surcharge du foie en fer. Donc, c'est peut-être par ce biais-là que, on devient moins diabétique. Il ne s'agit pas de tout se mettre à boire du café forcément pour le devenir moins, mais ça peut être un argument supplémentaire. De la même façon, grâce au polyphénol, une consommation modérée d'alcool, vous verrez si pour vous c'est modéré ou pas, 2 verres par jour, était associée à une diminution du risque de diabète. Il faudrait voir si ce n'était pas associé à une augmentation du risque de cirrhose. Mais voyez, on voit toujours par sa lorgnette, hein, l'aspect de la santé. Hein. Que la consommation de viande était associée à un sur-risque de développer le diabète, mais ce n'était pas vrai pour les poissons et les crustacés, mais pour la viande animale, on va dire. Et alors, de façon, vous allez me dire, c'est normal, mais il y avait un plus grand risque d'être diabétique quand on consommait régulièrement des boissons sucrées. Donc, ça fait grosso modo 4 verres par semaine. Mais alors, ce qui est étonnant, c'est que le risque était encore plus important pour les personnes qui prenaient des boissons light. Donc, je vous ai dit avant que quand on est diabétique, pour éviter de faire monter son taux de sucre, c'était mieux de prendre des édulcorants que des boissons sucrées. Et puis ben là, je vous dis quelque chose qui est un petit peu presque opposé. Quand on n'est pas diabétique, cette étude montre que des boissons dites light, eh bien, augmente presque le risque de développer du diabète par rapport à ceux qui n'en consomment pas. Alors ça peut paraître bizarre. En fait, le lien possible, mais ça c'est juste des réflexions intellectuelles qui ont été faites par la suite, c'est que certes, quand vous prenez des boissons light, vous n'avez pas l'impact sur votre glycémie, sur les calories, mais ça entretient malgré tout le goût pour le sucré et ça entretient malgré tout une consommation générale vers des produits plus sucrés. Et par contre, il n'y avait pas d'association de sur-risque de diabète quand on prenait des boissons sucrées mais qui est du 100% pur jus. Donc là aussi, c'est un petit peu différent de ce que je dis par rapport au coca, au jus de pomme. Certes, c'est pareil sur le plan calorique, mais tant qu'à prendre des calories, a priori, on deviendrait moins diabétique si on prend des jus de fruits que si on prend des sodas. Alors finalement, au-delà du diabète, on a besoin des glucides et c'est extrêmement important parce que c'est le constituant de nos tissus, de nos organes, et donc on en a besoin. Et c'est pas ce qu'il y a de plus calorique dans notre alimentation, puisqu'un gramme de glucides, ça vous amène 4 calories en moyenne. À côté des glucides, vous avez les lipides, donc c'est tout ce qui concerne le gras, que vous avez trouvé dans les matières grasses animal, donc que ce soit les crèmes fraîches, le beurre, la charcuterie, et aussi dans les origines végétales pour tout ce qui va concerner les huiles. Et là, pour le coup, c'est 2 fois plus calorique que le sucre. Vous voyez, 1 gramme de glucides, c'était 4 calories, 1 gramme de lipides, c'est 9 calories. C'est extrêmement important, le gras, d'une part parce que ce qui fait que c'est bon, c'est que c'est gras. Bah oui, voilà. Vous avez tous testé peut-être ce soir, ou le week-end dernier. C'est vraiment le gras qui est exhausteur de goût et qui donne alors ce qu'on appelle la palatabilité des aliments. C'est bon en bouche, quoi. Et tous les cuisiniers vous diront il faut mettre effectivement des matières grasses pour que ça ait du goût. Ça, c'est sûr. C'est tout de plus appétissant qu'un steak complètement cuit sans matière grasse avec des haricots verts vapeur, quoi. Mais donc c'est extrêmement important pour le goût, en France d'autant plus. Et on a besoin, il ne faut pas bannir le gras, on a besoin parce que toutes nos cellules sont constitué d'une couche de gras, donc c'est extrêmement important. Nos hormones sont constituées à partir de cholestérol et nos protéines anti-inflammatoires, c'est ici, sont aussi constituées à base de gras. Donc on ne peut pas dire qu'il ne faut pas de gras du tout. Et puis les protéines, alors c'est ce que vous trouvez dans les œufs, la viande, le poisson, les produits laitiers, eh bien, c'est là aussi faiblement calorique et c'est tout ce qui est important pour la constitution du muscle et les mouvements. Donc ça, c'était les macronutriments qui sont présents en grande quantité dans l'alimentation. Et vous avez les micronutriments qui sont en toute petite quantité. Les macronutriments, on est sur plusieurs grammes par jour, plusieurs dizaines, voire centaines. Et les micronutriments, on est sur le milligramme ou le microgramme. Donc on tourne que ça n'a pas de valeur énergétique, c'est zéro calorie. Et donc vous avez les vitamines qui sont, comme leur nom l'indique, vitales pour la plupart. Et puis vous avez, je passe rapidement, et les oligo-éléments, c'est tout ce qu'on va trouver, le zinc, le sélénium, le cuivre, c'est le fer, c'est des choses qui sont très importantes au bon fonctionnement de l'organisme. Et puis dernière chose, les minéraux, le calcium, le phosphore, le magnésium, le potassium, le sodium. Et l'idée, c'est que tous ces constituants sont extrêmement importants et qu'une alimentation équilibrée doit pouvoir vous amener tous ces composants. Et normalement, là pour ouvrir une parenthèse, quand on mange équilibré à l'occidental, on n'a pas besoin de prendre des compléments polyvitaminiques qu'on peut trouver en pharmacie, Bion 3, Azinc, Juvamine, ce que vous voulez. Quand on mange équilibré, vous avez tout dans votre ration alimentaire et ça n'a jamais requinqué quelqu'un de prendre des vitamines si on n'est pas carencé. Alors, après ce catalogue, j'espère pas trop indigeste pour vous, on va essayer de voir différents types de modes alimentaires un petit peu différents. Et donc, arbitrairement, j'ai choisi de commencer par les régimes végétariens, en vous précisant que, à la base, l'homme est naturellement omnivore, c'est-à-dire qu'il est en capacité de manger de tout. Et qu'on peut être amené à devenir végétarien pour des questions sociales, pour des questions parfois religieuses, avec certaines diètes religieuses. Et puis, on rencontre parfois des personnes qui sont devenues végétariens de fait, parce que le 15 du mois, malheureusement, n'ont plus de moyens, que les viandes, ça coûte plus cher que le reste, et que du coup, ils ne mangent pas autre chose. Hein. Donc, ça peut être par manque de moyens. On ne sait pas trop combien il y a de végétariens en France. On sait qu'aux États-Unis, grosso modo, c'est 2% de la population et que c'est plutôt en voie d'augmentation. C'est plutôt également en augmentation chez les adolescents, alors peut-être aussi par opposition parfois au milieu familial. Et maintenant, vous pouvez trouver beaucoup de restaurants qui vous affichent une carte avec tel produit qui est compatible avec un régime végétarien, voire on le verra avec un régime végétalien. Et ce n'est pas tout à fait récent, ça date du 19e siècle, le mot « végétarien », quand est née la société végétarienne, la société scientifique. Mais avant, ça existait déjà, et on parlait d'abstinence, de diète végétale, de légumisme, de xérophagie. Xéro, c'est pour le bois, on mangeait des légumes. Et au début, ce n'était pas franchement une option nutritionnelle, c'était plutôt un choix philosophique, donc était prôné par les hindous, les bouddhistes, les pythagoriens, donc là, on monte à l'Antiquité. Et puis, un peu plus loin de la philosophie, ça a été aussi remis à l'ordre du jour à l'époque yéyé, avec Bardot, Yoko Ono, Paul McCartney ou autres. Et on va distinguer deux grands types de régimes, les régimes végétariens, différents des régimes végétaliens. Alors, dans le régime végétarien, classiquement, on ne mange pas de viande. Alors, je vous ai mis « quoique », parce que... certains vont vous dire qu'ils sont végétariens juste parce qu'ils ne vont pas manger de viande rouge, par exemple. Ils vont pouvoir manger de la viande blanche. Enfin, théoriquement, pas de viande. Ils peuvent consommer du lait et des œufs, mais pas toujours. Il y a différents courants. Il y a des lacto-végétaristes qui vont prendre les produits laitiers, mais pas de viande et pas d'œufs. Et vous avez les ovo-végétaristes qui vont inclure les œufs, mais pas les produits laitiers. Et puis, vous avez les régimes végétaliens, où là, c'est beaucoup plus strict et beaucoup plus compliqué sur le plan d'équilibre alimentaire, pour le coup, parce qu'il n'y a aucun produit d'origine animale, donc pas d'œuf, pas de poisson, donc bien sûr, pas de viande, pas de produits laitiers, jusqu'à pas de miel, avec différents courants que j'évoquerai pas, sauf peut-être le véganisme, parce que là aussi, c'est un peu plus, entre guillemets, à la mode, en tout cas, on en parle plus. Où là, au-delà de l'alimentation, on va chercher à exclure tout ce qui va être d'origine animale, donc y compris jusque dans l'aspect vestimentaire, en excluant la laine, en excluant le cuir, pour éviter tout ce qui va être domestication du monde animal. Qu'est-ce qui fait qu'on peut devenir végétarien ? Alors, pour des raisons de santé, l'homme n'est pas fait pour manger de la viande. Alors, dans ce sens-là, je vous ai dit tout à l'heure qu'effectivement, dans mon étude américaine, quand on mangeait trop de viande, on devenait plus diabétique. Il y a aussi d'autres études qui vous montrent que manger de la viande rouge trop régulièrement augmente le risque de cancer du côlon ou augmente le risque de faire d'infarctus du myocarde. Bon. La spiritualité, parce que c'est lié avec l'abstinence qui favorise effectivement la méditation. Ça peut être aussi parce que vous avez des personnes qui ont vu ces reportages où on voit l'industrie américaine avec ses grands élevages, c'est vrai que ça donne pas très envie, quoi. Donc souci de protection de l'animal. Ça peut être aussi par inappétence, parce qu'il y a un événement X de la vie qui fait qu'on n'a plus envie de manger des protéines animales. Donc parfois les ados, c'est en contestation par rapport au milieu familial, mais il faut faire attention parce que ça peut être un mode d'entrée pour certaines dans l'anorexie mentale. Ça peut être avec l'esprit humanitaire et de développement durable parce que ça consomme trop d'énergie pour la planète. Donc les raisons économiques et les raisons de tradition. Par contre, donc on peut tout à fait être végétarien, mais entre guillemets, on ne s'improvise pas végétarien. Alors les vrais végétariens sont très pointus, on va dire, en matière de diététique, et c'est très important parce qu'on peut être végétarien et avoir un régime complètement couvert par son alimentation, mais il faut faire une bonne adaptation entre vos légumineuses et les céréales pour ne pas être carencé en protéines. Quand on est végétarien, voire végétalien d'ailleurs, on peut ne pas être carencé en protéines, mais il faut vraiment varier les sources alimentaires. Quand vous mangez de la dinde, du poisson, du bœuf, eh bien, il y a une très grande variété de protéines qui fait que vous êtes sûr de ne pas être carencé. Parce que ce n'est pas le tout de ne pas manquer de protéines, mais il faut avoir tout l'ensemble des acides aminés, c'est-à-dire les petites briques des protéines que votre corps va utiliser pour construire ses propres protéines. Dans les végétaux, ils vont être très riches dans tel acide aminé et pas contenir tel autre. Donc pour ne pas être carencé, il va vraiment falloir faire des associations. C'est pour ça que dans ce menu type, là, eh bien, on va effectivement... Alors quand on n'est pas très adapté, enfin coutumier des régimes végétariens, ça peut paraître parfois un peu ésotérique, mais ça peut être très très bon. On va devoir effectivement varier les sources alimentaires. Vous avez donc maintenant des rayons de supermarché qui se sont vraiment vulgarisés hein, maintenant sans être dans des épiceries spécialisées pour les régimes végétariens. Ça s'associe souvent avec d'autres pratiques alimentaires qui fait que généralement on mange plus sainement. C'est-à-dire que c'est refus de consommer des boissons alcoolisées, de manger trop de sucre, c'est un petit peu dans la mouvance de l'agriculture biologique. C'est plutôt les produits de saison plutôt que des produits surgelés. On consomme peu de tabac. On est plutôt partisan de l'homéopathie que les médicaments d'industrie pharmaceutique. Donc il y a quand même un esprit qui va grosso modo avec. La valeur nutritionnelle est vraiment en fonction du niveau de connaissance de la personne. Mais globalement, l'alimentation, elle est plutôt moins riche en termes de calories, moins riche en lipides. L'apport en glucides est correct, l'apport en protéines il est satisfaisant si on fait bien les associations et au final les gens ont plutôt un indice de masse corporelle moins élevé, ils sont plutôt plus menus en ayant les mêmes capacités pour faire l'activité physique, donc c'est plutôt bon, on va dire, pour la santé quand on le fait correctement, mais attention aux carences en énergie et en particulier chez la femme enceinte qui a des apports en protéines qui vont être plus importants du fait de la survenue de bébé qui va se développer. Donc là, il faudra bien les suivre. Donc un niveau de pression artérielle plus faible et un niveau de cholestérol plus faible qui fait penser que peut-être ce sont des personnes qui feront moins de problèmes cardiovasculaires, peut-être parce que là, on n'a pas d'études qui l'avèrent. Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment faire une évaluation individuelle et puis il ne faut pas généraliser. Mais par contre, il faudrait être très vigilant au fait de ne pas être carencé en vitamines. Donc, pour les personnes qui sont végétariennes, si on veut débuter ceci, il faut vraiment être suivi par le médecin traitant ou par le médecin nutritionniste pour faire des prises de sang de temps en temps et vérifier qu'on n'est pas carencé en protéines et pas carencé en particulier en fer et en vitamine B12, qui sont vraiment les deux nutriments les plus importants à surveiller parce que ce sont eux qui sont les plus présents dans les protéines animales. Il faudra vraiment être vigilant à ce qu'on ne soit pas carencé quand on a un régime végétarien et surtout végétalien. Alors, dans la même mouvance, vous avez les laits végétaux qui sont adaptés pour les végétariens. Parfois, pour ceux qui ont des allergies aux protéines de lait de vache, en sachant que dans la salle ici où il n'y a pas d'enfants, a priori, il n'y a personne qui fait d'allergie aux protéines de lait de vache, parce que c'est valable pour les enfants, mais en grandissant, la plupart du temps, on perd cette allergie. Ça peut être aussi pour ceux qui, pour le coup, sont intolérants au lactose. Et puis là aussi, c'est dans la mouvance bio, parce que souvent, les laits végétaux sont estampillés agriculture biologique. Ce qu'il faut bien se rappeler, parce que ça peut paraître évident pour certains, mais moins pour d'autres, c'est que les laits végétaux, c'est bien sûr pas du lait, hein, c'est du jus de fruits. C'est du jus d'amande, du jus de coco, du jus de noisette, du jus de châtaigne, mais ça n'a rien à voir avec le lait. Ça a la couleur du lait, mais ça n'est bien sûr pas du tout du lait. Et du coup, ça n'a pas les effets classiques du lait, c'est-à-dire qu'il y a très peu de protéines généralement, sauf pour le soja, et il n'y a pas de calcium spontanément. Donc ce sont des laits qui vont être enrichis en calcium. Pourquoi ? Parce que dans le grand public, les gens vont prendre des laits végétaux pour remplacer le lait. Et donc comme l'idée, c'est d'avoir du lait quand même pour avoir du calcium, ils vont être enrichis en calcium. Alors il n'y a pas de lactose, donc pour les intolérants, c'est bien. C'est peu calorique. Et alors c'est pauvre spontanément en vitamine D, mais là aussi c'est enrichi en vitamine D, mais ceci dit comme beaucoup de lait maintenant de vache. Alors c'est pas un lait qui est préconisé chez le nourrisson, parce qu'il n'a pas une composition adaptée en protéines et en lipides, et puis parce qu'un bébé qui serait allergique aux protéines de lait de vache a un risque important d'avoir des allergies croisées au lait de soja, donc c'est vraiment pas la bonne alternative. Et puis les laits qui sont faits à partir de petits fruits à coque, comme l'amande, la noisette, eh bien sont aussi contre-indiqués avant 3 ans parce que vous savez qu'on évite de donner les amandes ou équivalents aux petits enfants parce que ça favorise, c'est très allergisant, ça favorise les allergies alimentaires. C'est pareil pour l'enfant, c'est plutôt pas approprié. Alors quand on pense régime végétarien, on pense beaucoup à soja, et qui est une très bonne source de protéines, ça il n'y a pas de souci. Par contre, à ne pas trop abuser, puisque dans le soja, vous avez quelque chose qu'on appelle les phytoœstrogènes. Alors, œstrogènes, ce sont les hormones féminines, phyto, c'est-à-dire végétales. Donc, ce sont quelque chose qui est naturellement présent dans le soja et qui va se comporter comme l'hormone féminine. Ce qui peut être compliqué quand on est un petit garçon en développement. Donc, c'est interdit chez les moins de 3 ans. Et c'est interdit aussi chez la femme qui est enceinte ou qui va allaiter parce que ça passe dans le lait et du coup elle donne ce type d'hormones qui pourraient avoir des conséquences, notamment sur des impacts pubertaires ou de développement sexuel. Donc ce qui est avéré, mais chez l'animal, pas chez l'homme, ce qui est avéré, c'est que trop de phytoœstrogènes, ça peut donner des anomalies de développement des organes génitaux, des cancers du sein, des cancers du testicule et des problèmes de la fertilité. C'est chez l'animal, ça n'est pas avéré chez l'homme. Et ce qui a été testé chez l'animal, c'est avec des doses très très importantes de phytoœstrogènes qui sont bien sûr supérieures à ce qu'on aurait dans l'alimentation. Donc il faut être prudent avec tout ça, mais le principe de précaution que j'évoquerai à nouveau tout à l'heure fait qu'il faut l'éviter donc chez les femmes enceintes et les jeunes enfants. Alors, j'ai choisi aussi de vous parler des phytostérols parce que là, on est typiquement dans l'alimentation médicament qui va aider donc a priori à mieux vivre. Donc, les phytostérols, ce sont des produits là aussi d'origine naturelle, d'origine végétale. Phyto, ça veut dire végétal, qui vont être importants quand on veut faire baisser son taux de cholestérol. Les phytostérols vont pas être bien absorbés au niveau de l'intestin. Dans l'alimentation, votre cholestérol, vous allez l'absorber, enfin vous comme moi, on va l'absorber au niveau de l'intestin. Si on a des phytostérols, ils vont être là, ils vont empêcher le cholestérol d'être absorbé. Les phytostérols, eux, ne seront pas absorbés. Donc au final, le cholestérol animal, il ira dans les selles et vous absorberez moins de cholestérol. On dit qu'il entre en compétition. Donc, comme on absorbera moins le cholestérol, eh bien ça va faire baisser votre taux de cholestérol, et notamment celui-ci que vous avez peut-être vu sur vos prises de sang, qui est le LDL. C'est celui-ci que votre médecin regarde, c'est le mauvais cholestérol, c'est celui-ci qui encrase vos artères. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on se dit, tiens, si on le met dans notre alimentation, ça va empêcher d'absorber le cholestérol alimentaire, et donc ça pourrait faire baisser le cholestérol, ce qui est important parce que le cholestérol, comme le tabac, comme l'hypertension, le diabète, fait partie de ce qu'on appelle les facteurs de risque cardiovasculaires qui vont encrasser les artères et vont favoriser par exemple les infarctus ou les attaques cérébrales. Et donc on sait que si on diminue le taux de cholestérol, quelle que soit la méthode, on va réduire la possibilité de faire un infarctus ou une attaque cérébrale. Donc où est-ce qu'on va trouver ces phytostérols ? Eh bien on les trouve dans les huiles végétales. Alors c'est pas des huiles qu'on utilise forcément tous les jours. L'huile d'argousier, l'huile de maïs, l'huile de soja. Bon. On peut le trouver dans les fruits à coque, hein, les noix, les graines. Donc ça peut être intéressant, sauf qu'il faut en manger une grande quantité. Or, toutes ces graines, elles sont riches en lipides, donc riches en calories, Donc là, on revient tout à l'heure, ça peut faire monter le poids. Donc, on a développé, l'industrie agroalimentaire a développé des margarines qui vont être enrichies parce que pour avoir un impact sur la baisse de votre taux de cholestérol, il faut en manger entre 2 et 3 grammes par jour. Or, si vous le prenez juste dans les poignées de noix, et ben vous serez à 300-400 mg, donc pas assez fort. Et si on est sur une consommation de 2 à 3 grammes par jour, et bien ça fera baisser statistiquement dans les études votre taux de cholestérol de 10%, ce qui est loin d'être négligeable, parce que les médicaments du cholestérol, comme les statines, dont vous avez peut-être entendu parler, en tout cas pour les plus anciennes, font baisser de 25%. Donc c'est vraiment loin d'être négligeable. Et c'est vraiment un concept intéressant de se dire qu'il y a un aliment qu'on peut utiliser pour faire baisser le taux de cholestérol. Donc il y a des autorisations de mise sur le marché qui ont été faites pour ce type d'aliment, un petit peu comme pour l'industrie pharmaceutique pour des vrais médicaments. Et donc ça a été autorisé depuis 2000, c'est un petit peu ancien maintenant, pour des pâtes à tartiner type margarine, en disant qu'il ne faut pas consommer plus de 3 grammes par jour, parce qu'il y a un cas très particulier où dans la population, c'est rare, mais il y a des gens qui ont une maladie qui s'ignore, qui s'appelle la cytostérolémie. C'est rare, mais en tout cas, ils vont, eux, absorber les stérols végétaux que nous, normalement, on ne doit pas absorber. Donc, eux, ils vont l'absorber, ça va passer dans le sang et du coup, leur cholestérol va monter en flèche. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas en consommer de façon trop importante. Mais c'est vraiment extrêmement rare, à tel point que les recommandations américaines et européennes prônent en cardiologie la consommation dans la population générale de ce type d'aliments pour baisser le cholestérol et de fait faire moins de problèmes cardiaques. Par contre, de la même façon, c'est interdit aux femmes enceintes et allaitantes, parce que ça n'a pas été étudié, et c'est interdit chez le jeune enfant, comme beaucoup de nouveaux médicaments qu'on met sur le marché. Et voilà, sans faire de pub, mais typiquement les produits que vous pouvez trouver dans l'industrie. Alors, je n'ai pas de conflit d'intérêt avec Danone et Fruits d'Or. Alors ensuite, il y avait l'agriculture biologique, parce que au-delà de l'aspect calorique, si on pense à manger mieux, c'est manger plus sainement pour vivre mieux, et bien aujourd'hui, on peut imaginer une place intéressante pour l'agriculture biologique. Et alors, il y a les pros, les anti, c'est pas trop l'objet d'être pro ou anti, j'espère, dans cette conversation, mais il y a un règlement européen pour la norme de l'agriculture biologique. Parce que certains vous diront, oui, mais agriculture biologique, si on achète un produit allemand ou espagnol, c'est pas le même agriculture biologique. Il est censé y avoir un label européen où on vous précise que c'est ce qui va favoriser donc un système global de gestion agricole et de production alimentaire qui allie les meilleures pratiques environnementales avec un haut degré de biodiversité, la préservation des ressources naturelles, l'application de normes élevées en matière de bien-être animal, une méthode de production respectant la préférence de certains consommateurs à l'égard des produits obtenus grâce à des substances et des procédés naturel. Donc il y a un cadre légal. Et l'idée, effectivement, c'est la gestion durable de l'agriculture, le respect de la biodiversité, et il est tout de même stipulé qu'il s'agit de promouvoir des produits de haute qualité dont l'obtention ne nuit ni à l'environnement, ni à la santé humaine, ni à celle des végétaux, des animaux ou leur bien-être. Donc c'est presque un vœu pieux dès le départ que ça puisse améliorer la santé. Alors, il faut parfois effectivement faire des petits rappels pour ceux qui ne sont pas forcément familiers. Agriculture biologique, ça ne veut pas forcément dire agriculture sans pesticides, parce qu'on parle beaucoup de pesticides, on parle beaucoup de perturbateurs endocriniens, on pourra tout à l'heure. Mais ça ne veut pas dire sans pesticides, mais on va utiliser des biopesticides qui sont d'origine naturelle et qui sont autorisés donc dans la baie. Par contre, c'est une agriculture sans organismes génétiquement modifiés, sans engrais de synthèse, je pense que ce qui est très important, sans hormones de croissance ni antibiotiques qui, on peut le voir, ne seront peut-être pas bons pour la santé du consommateur, et qu'il y a certaines pratiques qui ne seront pas autorisées, comme la culture hors sol ou l'utilisation de nanotechnologies. Et donc, si on essaye, de façon un peu schématique, d'opposer agriculture conventionnelle et biologique, eh bien, ce qui est proscrit en bio, c'est les farines animales, les hormones de croissance et antibiotiques et le confinement des animaux à forte densité. Et là, du coup, on va utiliser par opposition aux antibiotiques l'homéopathie et l'herboristerie. sauf si les bêtes, bien sûr, sont vraiment malades. Donc des aliments biologiques et puis un environnement sanitaire pour l'animal qui est sans doute plus sain. Donc ça, vous avez tous vu ces images d'élevage en batterie comparées, alors c'est peut-être un peu caricatural, hein, mais comparées à ce qu'on souhaiterait voir dans l'agriculture biologique. Et donc il y a deux objectifs, la préservation de l'environnement et donc le développement durable et la santé du consommateur. Les plus du bio qu'on peut voir, c'est une richesse plus importante en minéraux, en potassium, calcium, magnésium, fer, en certaines vitamines. Mais ce que montrent les études, c'est que d'une part, ce n'est pas vrai dans toutes les études, et quand on le trouve, ce n'est pas vrai dans tous les légumes, ce n'est pas forcément vrai pour tous les minéraux dans chaque légume, ce n'est pas forcément vrai pour toutes les vitamines dans chaque légume. Ça dépend aussi quand sont récoltés les légumes, parce que théoriquement, effectivement, l'agriculture biologique est censée respecter le rythme des saisons, mais vous l'avez tous constaté, hein, vous achetez des tomates cerises bio toute l'année, hein, donc la tomate bio, malgré tout, qui est récoltée au mois de décembre, elle n'a sans doute pas la même valeur nutritionnelle que celle du mois de juillet. Et puis, des fois, les études ont montré des différences en termes de minéraux ou de vitamines, mais qui jouent à la virgule et qui n'ont pas forcément un vrai impact sur la santé. Donc, c'est un petit peu compliqué de faire la part des choses. Et il y a une revue, alors j'ai pas traduit le titre en français, c'est une revue internationale, hein, de médecine interne qui fait référence, qui a compilé 237 études dans laquelle on a comparé le bio vers l'agriculture conventionnelle. Ce qui est ressorti, c'est qu'il n'y a pas de différence agriculture bio versus agriculture conventionnelle sur les apports nutritionnels, en gros sur les minéraux, les calories, et pas de différence sur la réduction des maladies ou en tout cas l'amélioration de la santé. Le contenu, il est à peu près équivalent. Il y avait des petites différences au niveau du phosphore, mais qui a priori ne s'accompagnent pas d'un impact sur la santé. Ce qui est apparu, c'est que les aliments issus de l'agriculture biologique avaient une concentration moindre en antibiotiques, ce qu'on peut effectivement imaginer. Mais au final, pas d'argument pour que ce soit meilleur pour la santé, ce qui fait que la diapo n'y est plus, que les agences européennes et américaines disent que pas de démonstration avérée pour dire que l'agriculture bio est meilleure pour la santé. Mais à ça, on peut mettre quand même deux bémols. Le premier, c'est qu'effectivement, c'était des études, mais qui ont été faites sur seulement très peu d'années d'observation. Or, pour voir l'impact sur la survenue d'un cancer, sur la survenue d'un infarctus, eh ben, ce n'est pas sur 2 ans, hein. Heureusement, parce que alors là, il faudrait vraiment, si on avait montré quelque chose, là, il aurait tout de suite fallu arrêter l'agriculture conventionnelle, mais c'est vraiment sur plusieurs années, voire au moins une décennie. Donc, on manque encore de recul. Et puis, ce qui est vrai, c'est qu'on a de façon parallèle bien avéré que les pesticides non bio et l'utilisation d'hormones de croissance favorisaient pour le coup, tant chez l'animal que chez l'homme, la survenue des maladies métaboliques comme le diabète, l'obésité, l'infarctus et probablement certains cancers. Donc on l'a montré pour certaines substances, ça se rapproche des perturbateurs endocriniens. On ne l'a pas formellement avéré pour l'agriculture elle-même, mais sans doute parce qu'on manque de recul. Donc on peut tendre à admettre que le principe de précaution laisse entendre que l'agriculture biologique est peut-être plus saine, même si, je vous l'atteste, il n'y a pas de données objectives qui le montrent aujourd'hui. Dans les régimes dont on a entendu dire qu'ils amélioraient la santé, le régime le plus communément admis, c'est le régime méditerranéen ou régime crétois. Alors, donc ça vient de la Crète. Donc on comprend qu'on a envie de vivre vieux quand on voit le paysage. Et ces observations, elles datent du milieu du XXe siècle, où on constatait à l'époque que les Crétois mouraient plus longtemps. Et qu'est-ce qui faisait qu'on pouvait mourir vivait plus longtemps. Ah, ça durait longtemps, voilà. Le palliatif était long. Mais c'est, on va vous suivre, hein, c'est bien. Et qu'est-ce qui pouvait faire qu'ils vivaient plus longtemps? Eh bien, c'était peut-être leur alimentation, parce qu'ils étaient sur une île et qu'ils mangeaient peut-être un petit peu différemment du reste du bassin méditerranéen. Et donc, il y a déjà des petites nuances entre régime crétois et régime méditerranéen, et surtout très différemment, eh bien, de la population de référence qu'on prend souvent, c'est-à-dire les Américains. Alors, qu'est-ce que le régime méditerranéen ? Donc, l'Association américaine de cardiologie définit le régime méditerranéen comme étant une grande consommation de fruits, comme les tomates, qui sont riches en anticancérigènes, notamment la vitamine E, consommation importante de légumes, de pain, de pâtes, de céréales, pommes de terre, haricots, noix, d'huile d'olive, car elle est source de graisses monoinsaturées, c'est-à-dire les oméga-3. Et une consommation faible à modérée de produits laitiers, de poissons et de volailles. Une très faible consommation de viande rouge. Donc finalement, on revient à ce qu'on disait un peu tout à l'heure, quand même, que la viande rouge, quand on en mange trop, c'est pas bon. Quand on en mange moins, c'est peut-être bon quand même. Des œufs, par contre, jusqu'à 4 fois par semaine. Là aussi, on revient sur une notion qu'aiment bien les Bordelais. Du vin, enfin pas que les Bordelais d'ailleurs. Du vin en quantité modérée. Et cette petite phrase, j'aurais pu vous mettre au tout début, que le régime méditerranéen n'est pas pour autant hypocalorique. Les Crétois ne sont pas tous des fils de fer. Donc ce n'est pas parce qu'on adopte un régime méditerranéen ou un régime crétois qu'on va perdre du poids. En revanche, il semble avéré que c'est sans doute mieux pour la santé. Et ça, c'est la pyramide du régime méditerranéen, où plus on va vers le haut et moins on en consomme régulièrement. Et donc ce qu'on consomme beaucoup, ce sont les fruits, les légumes. Voyez, alors c'est tout petit peut-être pour vous, ouais. Poissons et fruits de mer 2 fois par semaine, mais par contre, vous voyez, viande et sucreries de moins en moins souvent. Et dans les viandes qu'on va privilégier, ce sont plutôt les viandes blanches, type lapin, volaille. Et ce qui est avéré, c'est qu'effectivement, on meurt plutôt moins, je vous le mettais ici. Il y a ce travail-là qui compile 12 grosses études qui ont inclus dans le monde plus d'1 500 000 personnes, donc c'est quand même pas rien, qui ont été suivies pour le coup de 4 à 18 ans pour certaines. Et sur ces 18 ans de suivi, on a pu enregistrer 40 000 événements, c'est-à-dire 40 000 problèmes cardiovasculaires ou neurologiques. Et donc ce qui a été avéré, c'est que ceux qui avaient le régime méditerranéen avaient une mortalité diminuée de 9%, diminution également de 9% de la mortalité par infarctus du myocarde, diminution de 6% de la mortalité due au cancer, et puis diminution de 13% sur ce qu'on appelle les maladies neurodégénératives, comme le Parkinson ou la maladie d'Alzheimer. Donc là, pour le coup, très clairement, un effet très positif sur la santé. Alors ça, on l'a bien entendu, ça a permis de booster aussi les ventes d'huile d'olive, et là aussi, c'est quelque chose qui est à prendre avec considération. On ne dit pas qu'il faut rajouter de l'huile d'olive partout, parce que là, c'est quand même aussi une matière grasse et on revient avec les aspects caloriques. Et il ne s'agit pas de rajouter l'huile d'olive à la consommation de beurre qu'on peut avoir ou de margarine. C'est en substitution. Donc les gens parfois pensent bien faire en rajoutant quelque chose. C'est plus facile de rajouter de l'huile d'olive dans sa consommation quotidienne de vinaigrette plutôt que de dire que je vais manger seulement 2 fois dans le mois de la viande rouge et un peu plus souvent des légumes verts. Alors les hypothèses qui faisaient évoquer qu'il y avait un impact favorable de la nutrition crétoise, c'est qu'on a plus de vitamine B9 qui réduirait le cancer du pancréas, plus de vitamine A, qu'on appelle les caroténoïdes, qui diminuent les cancers ORL, et de l'œsophage, plus de vitamine C qui diminuerait le cancer de l'œsophage, enfin tout un bon tas d'arguments qui expliquent effectivement que c'est un impact favorable aussi sur la diminution des cancers. Et puis, je voulais terminer avant la discussion de note positive aussi, sur le chocolat et la santé. Est-ce que c'est bon pour la santé le chocolat ? Oui ! Il y a un consensus là-dessus. Alors oui, alors on parle déjà du cacao, qui est intéressant parce qu'elle contient des protéines, elle contient de la caféine, donc ça a un effet psychostimulant, elle contient un petit peu de lipides, mais là on va parler de chocolat noir, on est bien conscient que le chocolat blanc, on va l'exclure tout de suite. C'est intéressant parce que c'est une teneur élevée en antioxydants, donc des choses qui vont limiter, faiblement, mais qui peuvent limiter tout ce qui est processus de cancérogénèse. C'est riche en potassium, en minéraux comme le zinc, le magnésium, le phosphore. Et puis donc c'est aussi psychostimulant parce que ça comporte de la sérotonine et de la dopamine. C'est pour ça que quand on a des fois un petit coup de mou le soir ou qu'on n'a pas passé une bonne journée, un petit chocolat ça repart. C'est peut-être pas plus mal qu'un Lexomil des fois, quand c'est pas trop sévère. Et on a des vertus avérées parce que, eh ben, il y a une tribu au large du Panama, donc en Amérique centrale, où ils étaient des grands consommateurs de boissons cacaotées. Alors, rien à voir en termes de goût avec votre chocolat Lindt, hein, puisque là, vous voyez cette petite dame qui fait cuire sa boisson, enfin chauffer sa boisson à base de cacao. Je pense qu'en termes d'amertume, nous, on aurait du mal. Et qu'est-ce qu'on avait constaté chez cette population très particulière? C'est qu'ils faisaient moins, alors athérosclérose, c'est le nom médical pour dire moins de problèmes artériels, plus de diabète, enfin moins de diabète, pardon, et moins d'hypertension. Et que les enfants, petits-enfants qui avaient quitté la campagne de la tribu pour aller en vivre, en ville, pardon, et qui avaient abandonné cette boisson cacaotée, alors ils avaient peut-être aussi adopté le McDo, hein, eh bien, ils avaient plus de bénéfices sur leur santé. Donc c'est un petit peu grâce à ça qu'on s'est dit, un peu comme les Crétois, qu'il y avait peut-être un impact du cacao sur la santé. Et donc ce qui a été avéré, c'est qu'il y avait une relation inverse entre la consommation de chocolat et les maladies neurodégénératives et cardiovasculaires. En gros, plus vous en mangez, plus le risque diminue. Donc il faut y aller, c'est ça. En plus, il y a un effet dose dépendant. Les gros consommateurs sont les plus protégés. Il y a une diminution modeste, mais tout de même significative de la pression artérielle. Ça diminue, alors insulino-résistant, ça diminue le risque de faire du diabète de type 2. Il y a donc un effet anti-stress et ça pourrait améliorer la fonction de la mémoire. Ce qui fait que, là aussi, l'Agence européenne sanitaire précise que, alors le nom un peu compliqué, les flavonols de cacao aident à préserver l'élasticité des vaisseaux sanguins, ce qui contribue à une circulation normale. Et donc préconise une consommation de 7,5 à 10 grammes par jour, ce qui correspond à deux gros carreaux à peu près. Attention, ça reste quand même, c'est pas la tablette, hein. Les deux gros carreaux seraient suffisantes pour avoir cet impact positif. Et on est sur le chocolat là aussi noir, hein. C'est pas le chocolat au lait avec les amandes, les raisins et compagnie et la nougatine, hein. Donc, pour conclure. Mieux manger pour mieux vivre. Donc il s'agit de revenir au départ au lien social. Je crois que c'est très important. Ça doit rester malgré tout un plaisir, une convivialité. Que de façon physiologique, l'homme il est omnivore, donc il est capable de tout manger. Après, l'événement de vie, l'événement de santé fait qu'il peut choisir de manger de façon très sélective où il n'a pas le choix quand il y a certaines maladies. Qu'il ne faut pas forcément trouver aussi une justification médicale à tous les choix alimentaires que l'industrie veut essayer de vous vendre. Et donc, il faut être assez critique, c'est ça, vis-à-vis eh bien, de ce que j'appelle ces faiseurs d'argent, parce qu'il y a un vrai business, hein, derrière, dont on est la cible. Et que, pour reprendre des proches, il faut manger pour vivre, comme au début, et non pas vivre pour manger. De même qu'il faut boire pour vivre, et non pas vivre sans boire, sinon c'est dégueulasse. Voilà, je suis à votre disposition si vous avez des questions.
Merci beaucoup. Donc, on va vous passer le micro si vous avez des questions. On a balayé large, mais je pense qu'il y a encore des questions, donc n'hésitez pas. Merci, Elodie.
Oui, moi j'avais une question. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à une jeune ado de 12 ans qui a décidé de devenir végétarienne ?
Pas facile. Il y a des personnes issues de la pédiatrie là, qui ne sont pas très loin dans la salle. C'est difficile d'être en confrontation avec les adolescents, quel que soit le motif initial. Je pense que plus on voit les contre et plus ça les entretient, les encourage à aller pour. Et donc, il faut sans doute discuter avec elles pour voir ce qui la motive. Adopter ce comportement-là, est-ce que c'est parce que c'est des copines qui ont fait la même chose, est-ce parce qu'elle a lu telle ou telle chose, ou est allée sur tel ou tel blog qui favorisait cela, et que donc voir ses motivations, parce que on peut parfois prendre les motivations à contre-pied pour la faire changer d'avis, mais je pense que l'idée c'est pas de la faire changer d'avis tout de suite, et le mieux si elle accepte, en tout cas, c'est essayer de vous de l'accompagner au mieux. C'est végétarien, pas végétalien. Oui, donc c'est déjà un peu moins compliqué, mais si elle accepte de temps en temps d'aller voir le médecin qui la suit pour juste vérifier qu'elle n'est pas carencée en ceci ou cela, et que vous puissiez même mettre un atout pour être sûr qu'elle ait cette variété en protéines essentiellement. Je pense qu'il vaut mieux être aidant, et puis ça peut généralement passer. Il faut juste que ce ne soit pas la porte d'entrée, je vous le disais, dans l'anorexie. Parce que quand c'est le contrôle pondéral qui est en jeu, là, ça devient un peu plus compliqué. Moi, j'en ai eu un dans ma famille il n'y a pas très longtemps, un neveu. Ça a commencé à 15 ans, et puis, alors qu'il n'y avait personne de végétarien dans sa famille. Mais lui, c'était plus pour des raisons politiques, écologiques. Et puis, maintenant, il a 19 ans, il mange des steaks tartare. Hein. Mais ça peut passer, quoi. Mais il faut quand même rester vigilant. Et je pense, en tant que parent, on ne va pas hésiter à consulter et vraiment répondre à ses attentes. Mais surtout, voir ses motivations, je crois. Après, elle peut faire une croissance, un développement pubertaire normal, hein, si vous êtes bien vigilant.
Ce soir, vous nous avez beaucoup parlé de la, comment je pourrais dire ça, de la contenance des aliments, c'est-à-dire voilà les lipides, etc. Moi, j'entends de plus en plus parler, et on le voit au travers des best-sellers qui sortent, de l'intestin. Et du rôle, de l'alimentation, qui aurait un rôle très très important, notamment au niveau de la probiote et des neurones qu'il y a et des contacts avec le cerveau, et notamment en prévision de tout ce qui est maladie neurodégénérative, c'est ça ? Voilà. Donc ça, c'est ma grande question, parce que moi, je m'alimentais très mal. Aujourd'hui, j'essaye de manger plus de légumes, etc. Et j'ai beaucoup de gens dans mon entourage qui me parle beaucoup de ça, alors du gluten, parce que ça rend les parois de l'intestin poreuses, etc. Et j'en passe, et les amandes, et etc. Donc je voudrais savoir ce que vous en pensez, ce que vous préconisez.
Alors, je ne sais pas si vous êtes allé voir l'exposition qui est présente, j'ai vu tout à l'heure.
Pas encore, c'était prévu la semaine dernière, mais on a eu un contretemps.
je vous encourage, parce qu'elle est effectivement très bien faite, et elle aborde l'intestin et les bactéries. Donc, maintenant, on en parle beaucoup, hein, du microbiote intestinal. Alors, je vous fais encore une transition, parce que je crois qu'il y aura une intervention au mois d'octobre aussi là-dessus. On a, dit-on, un deuxième cerveau au niveau de l'intestin, parce qu'on est colonisé par des bactéries, c'est-à-dire qu'on est habité par des bactéries. C'est elles qui nous aident à digérer normalement. Vous verrez d'ailleurs l'exposition qu'on a plus d'ADN de bactéries que d'ADN humain propre. Donc on est finalement en minorité chez nous, et qu'il y a tout un nouveau monde qui est en train d'être exploré. Et on voit beaucoup d'associations aujourd'hui entre donc ce microbiote, c'est-à-dire les colonies de bactéries qu'on a, et, alors moi je parle aussi de ma chapelle, mais le diabète, l'obésité, peut-être certains cancers, et donc aussi des maladies neurodégénératives. Et donc on pense à penser que, montre-moi tes bactéries, je te dirai comment tu vas être malade, quoi. C'est à peu près comme ça. Et ça, c'est avéré. Aujourd'hui, comment sur le plan pratique on l'utilise, ça, on n'y est pas encore. Pour ce qui va concerner, parce que je connais mieux l'aspect du diabète et de l'obésité que les maladies neurodégénératives, pour ce qui est de cet aspect-là, il y a des très belles études qui ont été faites chez l'animal, où on a vu que les souris génétiquement obèses et les souris génétiquement menues n'avaient pas du tout les mêmes bactéries dans l'intestin. Donc ça, c'était de se dire, déjà, il y a des bactéries qui sont à risque, et ça, on l'a constaté chez les humains, qu'effectivement, les obèses n'ont pas les mêmes bactéries dans l'intestin que les non-obèses. Deuxième chose, on a pu essayer de donner, enfin de vouloir changer la flore bactérienne des souris non-obèses en leur donnant des bactéries de la flore obèse chez elles. Et ce qu'on a constaté, effectivement, c'est qu'elles devenaient du coup obèses. Donc on s'est dit, ben là on tient une des clés pour traiter, pour moi, l'obésité ou voir d'autres choses. Ce qui est difficile, c'est effectivement de transfecter chez l'être humain, une flore bactérienne. Donc aujourd'hui, on ne le fait pas encore en pratique. On ne le fait pas pour ce qui concerne ces maladies-là. On le fait pour une chose très particulière, qui est une maladie qui est assez rare. Il y a des gens qui ont pris plein d'antibiotiques et qui ont une bactérie qui s'est développée, qu'on appelle le Clostridium. Alors ça, c'est un truc galère, parce qu'on n'arrive pas à s'en débarrasser. Sauf depuis qu'on leur donne ce type de bactérie, ils avalent et ça élimine ce Clostridium-là. Donc là, c'est une bonne première voie. Ceci dit, comment que ça se passe? Eh bien, on fait manger aux gens des sels. Hein, du caca, quoi. Hein, mais c'est traité, hein, je veux dire, c'est... voilà. Mais, après le chocolat, mais c'est effectivement une très bonne voie thérapeutique. Ce que l'on sait aussi, c'est que de manger tel type d'ultra-levure ou tel probiotique ne va pas avoir d'impact sur la modification de votre propre flore, parce qu'il faut manger des quantités tellement importantes que c'est juste pas possible. Que de prendre tel antibiotique, vous savez, les antibiotiques, ça modifie aussi un peu la flore intestinale, eh bien, ça va peut-être, passez-moi l'expression, mais foutre en l'air vos bactéries pendant les 5 jours de traitement, mais après, il y a une restitution ad intégrum des bactéries qui sont chez vous. Donc là non plus, ça ne va pas être efficace. Donc on sait qu'il y a une voie à exploiter, c'est d'ailleurs extrêmement intéressant, mais aujourd'hui, sur la pratique, on n'a pas encore les voies thérapeutiques adaptées. Alors, vous pouvez manger des probiotiques et des légumes, mais votre flore, elle est déjà constituée.
Oui, bonjour. Alors, je suis content que vous ayez parlé du chocolat, parce que je suis chocolatier et chercheur sur les antioxydants du cacao, des oméga 3. Et j'ai fait un livre avec le professeur Cabrol et qui m'a fait la préface, qui doit être lu et relu par tous les médecins et nos médecins, qui s'appelle « Comment soigner avec le chocolat ». Donc ça Merci. Tombe bien. Et je l'ai fait avec Henri Joyeux, n'étant pas médecin, j'ai surtout pas le droit de publier quoi que ce soit. Mais pardon, j'ai une étude sur 8000 consommateurs depuis 2006 qui me renvoient leurs feuilles. Il n'y a pas longtemps, j'étais à Montpellier avec 16 professeurs, dont le professeur Fourtillant, qui est de Poitiers, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, qui a trouvé en 1994 une hormone qu'on fabrique, la valantonine, c'était le prénom de sa petite fille. Elle est restée dans un tiroir longtemps. Il a fait sa thèse en 2015. Et effectivement, avec l'oméga choco, on fabrique la sérotonine, la mélatonine, et ensuite, grâce au professeur Fourtillant de Poitiers, j'ai découvert que c'était la fameuse donc valantonine qui repose les neurones. Et en fin de compte, tout est lié avec l'intestin, puisque sur les 8000 retours, je suis tombé sur des cas d'autisme, Alzheimer, Parkinson, avec le professeur Bellemin, qui est responsable de la recherche sur l'Alzheimer. Donc le problème, c'est que c'est un chocolat, mais pas un chocolat comme les autres. Donc effectivement, il ne sera pas remboursé par la Sécurité sociale. Et ça pose un problème aussi pour la recherche, qu'on pourrait faire 16 études cliniques, ça vaut plus de 3 millions d'euros. Et donc aujourd'hui, c'est basé sur le consommateur. Par exemple, les enfants n'ont plus de gastro quand les mamans donnent l'oméga choco. Ça n'a rien à voir avec les autres chocolats bio ou non bio, mais c'est basé sur les chocolatiers qui étaient des pharmaciens du 19e siècle. Alors je pars sur de la fève et non pas de la pâte de cacao. Et cette fève, on a beaucoup de fibres, on est riche en fibres, on a 10 allégations, potassium, tout ça. Mais comme tout est naturel, on s'est aperçu que c'est très vite reconnu par l'organisme, donc c'est très efficace sur l'organisme humain, qui prouve qu'on a un organisme qui est vraiment puissant. Et on s'est aperçu aussi bien dans toute l'Europe, parce que j'ai quitté en Suisse, j'ai eu la médaille d'or pour mes recherches sur les oméga 3 et les antioxydants en 2008, qu'en Belgique, en France, partout, il y a beaucoup de gastro chez nos enfants, et toute l'année. En fin de compte, ils ont un gros problème de flore intestinale, qui est logique, puisqu'ils mangent, moi je dis, comme des vieux dès l'âge d'un an, c'est-à-dire qu'ils mangent de la compote en gourde, donc ils ne digèrent plus, ils ne mâchent plus, ils n'entretiennent plus leur flore intestinale. Et automatiquement, je me suis aperçu sur tous les personnes qui ont un problème au niveau des neurones, ils ont un transit très mauvais. Et en général, ça va ensemble. Et donc maintenant, le chocolat est vendu aussi en pharmacie, mais qu'on ne démarche pas, il faut qu'il soit formé par nous pour avoir le droit de le former, de le vendre. Voilà, merci.
Merci pour votre témoignage, très intéressant.
Alors, toujours concernant les intestins. En ce moment, dans certaines revues, on trouve une page publicitaire, justement, qui traite du deuxième cerveau, et qui propose un médicament dont j'ai oublié le nom. Alors, est-ce que vous avez des connaissances dans ce domaine et qu'est-ce que vous pouvez nous dire?
Alors, pas que je sache, il n'y a pour le moment, sous réserve, je ne veux pas dire de bêtises, mais de ce que je sais, au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucun médicament avéré qui transforme de façon durable la flore intestinale des humains adultes. Alors après, on peut trouver tout un tas de gélules à droite et à gauche, quoi. J'aime bien, M. Clément, que vous me donniez la photo. Non.
Dans le
Ah oui. Les tendances. De l'ANR. Ah. Je veux bien. Ouais, ouais. Et c'est en vente sur Internet ou en pharmacie ? Ouais, certaines pharmacies. En complément alimentaire, sans doute. Ah, la question c'est qu'en est-il du calcium, de l'absorption, quelles eaux faut-il boire quand on a de l'ostéoporose? Alors il ne faut pas trop s'axer sur... Enfin il ne faut pas trop. C'est pas dans les eaux... Ah voilà, parce que j'allais vous dire, ce qu'il faut prendre ce sont des produits laitiers. Quand on fait donc de l'ostéoporose, c'est une maladie osseuse où on a une fragilité, une déminéralisation osseuse, pour un tas de raisons possibles. Et l'un des traitements de soutien, c'est d'avoir du calcium et de la vitamine D. Et c'est la raison pour laquelle les recommandations avec les ANC dont on parlait tout au début là, disent que chez la femme après la ménopause, il faut 1 g, 1,2 g de calcium par jour. Et c'est pour ça qu'on fait tellement de promotion des produits laitiers, puisque le calcium, là où il est le plus riche, ce sont les produits laitiers. Et en gros, une part de produits laitiers, c'est-à-dire un fromage blanc, un yaourt, une portion de fromage, vous avez 300 mg grosso modo de calcium. Donc vous en prenez 3 fois par jour, vous avez 900 mg, et puis le reste, il y en a un peu dans la viande et dans l'eau. Donc ça, ça ne pose pas de souci quand on peut tolérer les produits laitiers. Quand on ne peut pas, effectivement, il faut prendre les eaux riches en calcium, type Contrex, Courmayeur ou autre. Le souci pour certaines personnes, c'est qu'elles ont un goût quand même assez particulier. Ceux qui absorbent pas bien le calcium dans les produits laitiers l'absorbent pas forcément plus au niveau des os, et que dans ces cas-là, à part prendre des comprimés de calcium, il n'y a pas beaucoup d'autres options. Mais effectivement, les os riches en calcium, ça peut être un complément, mais il faut en boire.
J'ai quand même, entendu dire que le calcium d'origine animale, comme le calcium du lait, était moins bien absorbé que le calcium d'origine végétale. Et dans ce que j'ai lu aussi, c'est que les pays qui ont le plus d'ostéoporose, c'est ceux qui consomment le plus de lait et de produits laitiers. Alors
les produits où il y a
absorption, digestion.
Les produits où il y a le plus d'ostéoporose, ce sont ceux où on fait le moins d'activité physique, parce que c'est l'oxydant. Et que l'activité physique est l'un des meilleurs moyens pour éviter, enfin, parmi d'autres, hein, pour éviter l'ostéoporose. Donc il y a plein de facteurs confondants. On mange plus riche, mais on bouge plus trop. Et donc ça stimule pas trop les muscles qui vont les tirer sur les os et favoriser la solidité osseuse. Ce qui fait qu'on favorise le calcium d'origine animale, c'est juste, c'est comme pour les protéines quasiment en fait. C'est parce que la concentration, elle est plus importante. C'est juste par rapport à ça. Donc même si les possiblement moins bien absorbé, il est présent en telle concentration qu'au final, vous allez en prendre plus quand même. Mais après, vous trouvez du calcium dans les... Oh oui, exactement.
Vous n'avez pas du tout parlé d'associations alimentaires, en fait, en termes de digestion, en fait. J'ai lu qu'il y a certaines associations qui étaient meilleures que d'autres, notamment légumes et viandes ou légumes et céréales, mais que, par exemple, viande et céréales, c'était moins bien digérer, parce qu'effectivement la digestion ne se faisait pas dans des milieux tout à fait semblables, acides ou basiques, pas alcalins.
Alors effectivement, je n'ai pas parlé de ça parce que je ne suis pas très coutumier et ce n'est pas mon fonds de commerce, entre guillemets. C'est plus celui de mes collègues gastro-entérologues qui s'occupent des troubles fonctionnels de l'intestin. Mais quand on a des céréales, vous avez une richesse plus importante en nutriments qui va rendre la digestion plus lente, notamment parce qu'il y a des lipides dedans, contrairement à des fibres alimentaires qui ne vont pas forcément retarder l'absorption des autres nutriments. Après, là, si vous avez des troubles digestifs quand vous mangez tel ou tel aliment, c'est intéressant de faire une enquête sur les 7 derniers jours pour voir quel type d'aliment et telle association peut favoriser ce trouble-là, mais c'est très individuel d'une personne à l'autre. Donc je ne serai pas en mesure, en tout cas pour ma part, de vous donner des messages généraux.
pour éviter de grossir. Comment, qu'est-ce que vous mangez, vous, monsieur Pillet?
Ah, mais il y a on pourra parler pendant des heures, mais il y a un gros facteur qu'on ne maîtrise pas aujourd'hui, c'est la génétique. Et on n'est pas tous égaux à activité et alimentation égale. Ouais. Mais je perds mes cheveux, vous voyez, on ne peut pas tout avoir.
En fait, la transition est faite parce que moi, c'était ce point-là que je voulais soulever, c'est-à-dire que on connaît effectivement les propriétés des aliments, mais je pense aussi que chaque personne est unique et que finalement, on peut faire le même régime. Et il y a des gens qui vont maigrir très vite, d'autres qui vont au contraire grossir, parce que je pense qu'on ne prend pas suffisamment en compte l'aspect psychologique, les tempéraments des gens, le mental, et ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire le patrimoine génétique, qui certes est très très important pour tout.
Ouais, vous avez raison, deux aspects. Donc là, l'aspect génétique, effectivement, on est tous différents, et vous avez tous vu dans votre tirage des gens qui mangent n'importe quoi et qui ne prennent pas de poids. Et puis d'autres, alors le coup de « je regarde un pain au chocolat, je prends 2 kilos », c'est sans doute exagéré, c'est très exagéré, c'est pas vrai, mais il y a un petit peu de ça quand même. Donc très clairement, il y a un profil génétique qui fait que, d'ailleurs, on ne peut pas proposer la même chose pour tout le monde. Et ce qui devrait sortir d'ici, mais prochainement, les 3-4 ans, c'est de pouvoir vraiment pouvoir faire une cartographie ADN des personnes et proposer des conseils qui soient différents pour ceux qui veulent prendre du poids et ceux qui veulent, parce qu'il y en a qui veulent prendre du poids et ceux qui veulent en perdre. Et puis il y a un autre élément pour l'aspect pondéral qui est très important, c'est bien sûr l'aspect psychologique, parce que l'alimentation peut être soit un exutoire, soit un obstacle d'ailleurs, hein, quand on ne va pas forcément bien. Ou... D'ailleurs, ça revient un petit peu à l'acte de civilisation, hein. Quand on est heureux, on mange, quand on est malheureux, on mange aussi. Et le mariage et l'enterrement. Et quand on a des problématiques pondérales dans le sens du trop ou du pas assez de poids, de voir que l'aspect nutritionnel, ce n'est pas suffisant, il faut aussi une prise en charge, généralement psychologique, et aussi un accent donné, qu'on n'a pas trop évoqué, ce n'était pas l'obésité ou la maigreur, mais sur l'activité physique et également. Tout ne repose pas que sur l'alimentation. Oui.
Je voudrais aussi... dire une chose. J'ai été très surprise une fois par une remarque de mon médecin. Donc moi, j'ai une chance terrible, j'ai une santé, je suis jamais malade et je vais rarement voir mon médecin. Mais je fais aussi très attention à mon hygiène de vie, à ce que je mange et à pas mal de choses. Et j'ai aussi un bon patrimoine génétique. Bon. Et tous les deux ans, j'avais l'habitude d'aller voir mon médecin et de lui dire, voilà, je veux une prise de sang complète parce que je veux être sûre que tout va bien. Et un jour, il m'a dit, mais c'est pas la peine, depuis le temps que je te suis, c'est pas la peine de faire une prise de sang tous les deux ans. Si t'as pas changé ton mode d'alimentation, je suis sûre que t'as rien. Donc j'ai quand même été étonnée, parce que finalement, on peut jamais savoir, quoi. Je veux dire, un cancer, ça peut aussi tomber, je pense aussi, sur le nez des gens. Mmh. Et puis, j'avais aussi une deuxième remarque. J'ai aussi entendu dire que quand on arrivait à peu près à l'âge de 50 ans, si on n'avait jamais été malade de sa vie ou très peu, ça voulait dire qu'on pouvait vivre jusqu'à 100 ans. Je trouve que là aussi, il y a quand même une part... c'est peut-être un peu vite dit quand même.
Ouais. Alors, pour la deuxième remarque, ce serait bien, pour ceux qui n'ont jamais été malades, qu'il ne se passe rien par la suite. On peut vous donner des contre-exemples à l'appel, quoi. Ça, malheureusement, c'est beaucoup de personnes qui allaient très bien jusqu'à la retraite, et puis une fois la retraite arrivée, beaucoup de problèmes de santé qui arrivent quand il n'y a plus le surmenage professionnel, plus l'hyperactivité et autres. Et pour ce qui est la première partie, c'est vrai que quand les gens n'ont pas de plainte particulière, eh ben on n'a pas trop envie de faire un bilan, parce que finalement, qu'est-ce qu'on va rechercher? On peut faire une prise de sang qui va regarder les globules rouges, mais si ça vient du foie, ben on ne l'aura pas recherché. Si ça vient la vessie, j'en sais rien. Il faudrait faire un scanner corps entier, une batterie de test. Donc quand les gens vont bien et n'ont pas ce qu'on appelle un point d'appel, c'est-à-dire un signe particulier, bon, on n'a pas de raison, a priori, c'est vrai, de faire d'examen entre guillemets à l'aveuglette. Ça ne veut pas dire qu'effectivement on passe pas à côté de quelque chose, mais c'est parce qu'il faut savoir ce qu'on recherche.
Mais pour la question des gens qui ont des problèmes de santé à la retraite, est-ce qu'il n'y a pas aussi un facteur psychologique qui n'est pas
très
important?
Oui, ça c'est sûr.
Donc, aussi, dans le cancer, je pense aussi que c'est aussi un facteur très important. La maladie, c'est aussi quelque part le mal à dire quelque chose.
Donc, tout à fait, exactement. Ouais.
Est-ce que finalement, parfois, on n'a pas aussi des maladies qu'on se déclenche nous-mêmes, quelque part par là, quoi ?
Ou qui étaient latentes et contrôlées dans une situation qui nous convenait avant, et puis bah, y a un épiphénomène qui fait que le contrôle est levé. Ouais, c'est possible.
J'aimerais avoir votre avis sur la chrononutrition.
Alors, la chrononutrition, c'est le fait de manger à différentes choses à différents moments de la journée. Et pour faire schématique, hein, pour ceux qui connaissent peut-être pas, c'est le régime aussi qu'on appelle RPP, roi, prince, pauvre, c'est-à-dire on mange plutôt riche le matin, un peu moins le midi et du coup plus léger le soir. Ce qui semble plutôt intéressant parce que ça respecte aussi la chronobiologie, c'est-à-dire le rythme de production des hormones de l'organisme, en particulier tout ce qui va concerner les hormones du réveil, du stress comme le cortisol ou des hormones sexuelles qui fait qu'on en produit beaucoup le matin, un peu moins le midi et franchement moins le soir, et que ce sont des choses qui peuvent faciliter l'absorption ou le métabolisme des nutriments. C'est un petit peu de là qu'est née la chrononutrition. Et ça semble plutôt, en tout cas plutôt pas négatif. Donc après, il est difficile de faire là aussi des recommandations qui ont valeur nutritionnelle comme le PNNS, parce que c'est pas forcément adapté à tout le monde. En particulier quand vous avez un rythme de travail qui lui est contraire à la chrononutrition. Typiquement, les gens qui font les 3-8, bah, c'est pas adapté. Bah, ils aimeraient bien, mais c'est pas possible. Donc, c'est sans doute plutôt bien. Je crois pas qu'il y ait d'études qui montrent qu'il y ait un intérêt, là aussi, en termes sanitaires, mais pour le même problème que l'agriculture biologique, c'est parce que, là encore, il faudrait des études sur trop longtemps et qu'il n'y a personne qui va mettre de l'argent là-dedans. Mais il y a des arguments directs qui laissent à penser que c'est plutôt positif, oui.
Oui, alors moi, ma question, c'était, j'entends beaucoup parler de jeunes filles qui ont leurs règles beaucoup plus tôt, oui, en fait, qu'avant. Alors, je ne sais pas, les habitudes alimentaires n'ont pas forcément changé au même sein d'une même famille. Et malgré tout, on s'aperçoit que, alors, je ne sais pas si c'est l'air environnant qui fait qu'on a ce phénomène, mais je trouve quand même que... dès la fin de primaire, il y a ce phénomène. Donc moi, voilà, je voudrais savoir de quoi ça pourrait venir si les habitudes alimentaires ne sont pas différentes.
Il y a eu un avancement de l'âge de la puberté, garçon comme fille, de un an et demi entre le début du XXe siècle et actuellement. Ce qui peut paraître pas beaucoup, mais enfin, en fait, c'est quand même énorme. Et ça avait commencé déjà après la Deuxième Guerre mondiale. Et il y a un impact nutritionnel évident parce que c'est aussi corrélé avec l'augmentation et l'accélération de la croissance staturo-pondérale. Les générations sont plus grandes, elles sont aussi plus, sans être obèses, mais plus fortes. Et donc, il y a de façon avérée un impact de l'équilibre et de la variété alimentaire, et notamment de la richesse en protéines, qui fait que ça démarre plus tôt. Donc ça, c'est le premier point. Mais ça s'est accéléré aussi depuis les 30 Glorieuses. Et il semblerait aussi que les perturbateurs endocriniens aient là-dessus un impact aussi favorant, parce que dans ces perturbateurs endocriniens, donc ce qui va être utilisé dans les engrais ou autres, vous avez des molécules qui sont assez proches des hormones sexuelles, entre guillemets, et qui vont donc avancer... la puberté, alors de façon parfois très pathologique, donc il y en a qui, on sait qu'il y a beaucoup plus de puberté très précoce, notamment en Amérique du Sud, dans les zones très concernées par l'agriculture à très grande échelle, donc des jeunes filles qui vont faire la puberté à 6 ans, ce qui est bien sûr pas normal, et on constate donc un impact aussi là-dessus, de la même façon qu'on a un peu plus d'anomalies du développement sexuel, parfois à la naissance, hein, chez des garçons qui ont des des hypospadres, c'est-à-dire des zizi qui ne sont pas tout à fait finis comme il faudrait, ou des adultes qui vont avoir beaucoup plus de troubles de la fertilité aujourd'hui qu'il n'y avait il y a 30 ou 40 ans. Donc, pour votre question, oui, il y a un avancement de l'âge de la puberté, un impact certain de la nutrition, ça s'est avéré, et se surajoute probablement plus récemment les perturbateurs endocriniens. Bah, de toute façon, non, parce qu'on ne vit pas dans un vase clos, quoi. Donc on ne peut bien sûr pas tout perdre. Ça, c'est pas terrible, de boire dans une bouteille d'eau. De mâchonner votre bic, c'est pas non plus terrible. Enfin, on est envahi, hein, donc... à moins d'être amiche, enfin voilà, c'est... Et encore, il y a quand même l'air qui passe au-dessus, hein, donc on ne peut juste pas. Ceci dit, il est a priori pas délétère de commencer sa puberté, enfin que la puberté soit avancée. Non, et d'ailleurs, c'est pas grave en soi, tant que ça reste dans la norme, et ça pourrait d'ailleurs même limiter, mais ça c'est des présomptions, ça pourrait même limiter le risque d'ostéoporose des femmes après, de le démarrer un peu plus tôt. Ça c'est présomptif.
Une question sur les régimes, s'il vous plaît. Il y a plein, on en voit fleurir de temps en temps, là, des régimes sensationnels pour maigrir. Et on entend quand même difficilement le corps médical s'opposer à ce genre de régime.
Les régimes, alors on ne parle pas des régimes...
À commencer par, il y en a plein, mais il y en a beaucoup.
On ne parle pas des régimes sans sel, sans sucre, etc., quand on est malade.
Les régimes pour maigrir,
oui.
Comme le docteur...
Ce qui est avéré, oui. Il y en a quand même un qui a été radié.
Il a été radié, mais combien d'années après?
Oui. Ducamp.
Ducamp, oui. Alors comment se fait-il que le corps médical...
Eh bien, on le dit, mais on ne le dit pas assez fort.
N'est pas assez de voix pour dire que ces régimes sont dangereux.
Et d'ailleurs, je crois là aussi qu'on en parle à la fin de, la vis- de l'exposition ici présente. On vous encourage à y aller. On sait très clairement aujourd'hui que les régimes sont très délétères pour l'évolution du poids. De faire des régimes pour perdre du poids, hein, on crée souvent des troubles du comportement alimentaire. Et donc, plus on fait des régimes, plus on fait ce fameux effet yo-yo, on perd du poids rapidement, c'est très bon pour le moral, pas toujours pour le porte-monnaie, et puis on arrête le régime au bout d'un mois et demi parce qu'on a perdu 10 kilos. Et puis bah, après, on remange comme avant, soit parce qu'on pète un câble, hein, très clairement, ou soit parce qu'on a arrêté le régime. Sauf que quand on veut perdre du poids, le régime, il faut le faire à vie, en fait. On ne fait pas un régime pour perdre du poids à 5 kilos, j'arrête et c'est fini. C'est toute sa vie, parce qu'on revient un petit peu à la génétique en particulier, et on est un peu programmé pour stocker un peu plus, dépenser un peu moins, en plus préférer forcément ce qui fait prendre du poids, enfin tout bon. Donc le régime doit être fait à vie, et si on veut perdre du poids durablement, il faut des petits changements, mais toute sa vie. Donc maintenant... En tout cas, c'est ce qu'on essaye d'apprendre aux jeunes médecins. Il faut vraiment bannir tous les régimes. Et ceux qui vous proposent encore des poudres ou ceci ou cela en termes de substitut repas, c'est proche du charlatanisme. Oui. Mais... Vous en avez vendu, monsieur Clément. Ah oui. Ah, voilà.
Oui, dans la continuité, on parle beaucoup de diète. Alors, diète 16 heures, 24 heures, voire, enfin, de jeûne même d'une semaine. Et il y a des cliniques thérapeutiques style Buchinger qui font même au-delà. Donc, je voulais savoir ce que vous en pensiez.
Alors, ça remonte très loin, hein, jusqu'à, je disais, tout à l'heure, en préambule à l'Antiquité et puis même au Moyen-Âge avec Hildegarde de Bingen, etc. C'est aussi un petit peu dans le même mouvement que les régimes détox. Là aussi, ce qui est avéré, c'est que ce type de cure favorise aussi, pour la plupart des gens, je ne dis pas chez tout le monde, hein, il y a peut-être des gens qui l'ont testé qui vont très bien, mais ça favorise là aussi les troubles du comportement alimentaire, parce que ça génère très souvent des frustrations. Alors tout dépend dans quelle démarche vous le faites, mais souvent quand on se prive de Déjà, on peut avoir un problème pondéral au départ, et quand on se prive de tel aliment pendant telle période, le gros risque, eh ben, c'est le retour du boomerang, et après, psychologiquement, on ne tient pas, on lâche et on surcompense, et donc on peut reprendre le poids. Donc tout dépend si vous le faites dans l'esprit de perte de poids, et là je pense que c'est très délétère. Si c'est plus dans une quête un peu spirituelle, détox et autres, c'est pas tout à fait, je pense, le même état d'esprit, parce que déjà de base, a priori, vous n'avez pas de problème de poids, donc vous serez moins sujette au retour du boomerang, entre guillemets, donc ce sera sans doute moins délétère. Mais les jeûnes, les diètes complètes, quand même, on sait que sur le plan physiologique, c'est pour le coup pas très bon, parce qu'on produit ce qu'on appelle les espèces oxygénées réactives, ou du stress oxydant, qui est plutôt pas bon, tant pour les risques cardiométaboliques, diabète, etc., ou les risques de cancer. Alors, c'est pas parce que vous faites une semaine de jeûne qu'il va se passer quelque chose. Mais on voit qu'à l'échelle cellulaire, c'est différent de l'échelle humaine, hein, c'est pas parce que c'est vrai à l'échelle cellulaire que c'est vrai chez l'individu, c'est plutôt pas bon.
Dernière question. Écoutez, merci beaucoup pour vos interventions très intéressantes et merci encore au docteur Piguel. Bonne fin de soirée et puis rendez-vous en octobre. Voilà.